Et puis, en termes d'instruction, n'oublions pas l'instruction scientifique, et notre petit cavalier des sciences est là, en la personne de Léo. Et bien que nous soyons au chaud dans le studio, dehors l'hiver s'est bien installé, et toi, en bon tourmenteur, tu vas nous parler du soleil, si j'ai bien compris.
Exact, mais pas du soleil gentil, hein. Je vais vous parler des grosses colères du soleil, du genre à vous coller un cancer express ou vous faire passer en état de combustion spontanée.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique.
They have finally found the Higgs boson. 2 millions de victimes de la grippe.
A major outbreak of Ebola. A death toll is rising in Nepal after a massive 7.8 magnitude earthquake struck the region.
Alors, le soleil, vous visualisez bien, c'est la grosse boule jaune qui produit de la lumière et de la chaleur qui est dans le ciel normalement. Alors, la plupart du temps, le soleil est pépère. Il envoie un bon flux de photons. Il envoie la plupart du temps un bon gros flux de photons bien tranquille, donc nous fournissant cette lumière, mais aussi une tripotée de particules cosmiques un peu moins sympathiques, mais qui sont fort heureusement arrêtées par le bouclier magnétique de la Terre et les ceintures de Van Allen. Mais voilà, des fois le soleil se réveille un peu. Il envoie des jets de matière dans sa couche la plus superficielle, que l'on a appelée la chromosphère, des jets qui s'étendent ensuite bien au-delà du soleil, le tout accompagné d'un flot de particules donc, qui part dans l'espace. Si la Terre est sur le chemin, on a de jolies aurores boréales et australes près des pôles nord et sud respectivement, là où le champ magnétique est le plus faible. Mais pas encore de gros désagréments particuliers, sauf quand le soleil s'énerve vraiment.
Et alors ça arrive souvent ?
Alors non, à peine quelques fois en plusieurs siècles. Hein. En fait, il est difficile de savoir la vraie périodicité de ce type d'événement très violent, car l'observation et la surveillance du soleil sont des activités qui sont plutôt récentes, et donc on manque de recul. Toutefois, pour les temps qui sont plus anciens, en recoupant les archives et les comptes rendus de l'époque, on peut deviner lorsqu'une éruption solaire massive s'est produite. Par exemple, c'est ce qu'une équipe de chercheurs japonais a réussi à faire pour l'année 993 de notre ère.
Des récits de fin du monde les ont mis sur la piste ?
Alors, en fait, tout a commencé avec des arbres. Et non, pas des arbres cramés par le soleil, ce n'est pas un film de Michael Bay, précisons. Quand un arbre grandit, son tronc aussi, d'une unité que l'on appelle un cerne. Une analyse au carbone 14 de ces arbres a montré donc un fort taux de ces 14 dans les cernes qui correspondaient à l'année 993. Et ce, à différents endroits de la planète, ce qui excluait donc un événement local. Les auteurs ont donc suspecté que cette surproduction de carbone 14 était due à un rayonnement cosmique, soit d'origine solaire, ou alors venant d'un événement hors du système solaire comme une explosion de supernova. Dans tous les cas, c'est un événement qui est normalement visible, et les humains de l'époque ont dû voir quelque chose dans le ciel et ont dû sûrement le noter quelque part. Direction les archives, donc.
C'est vrai qu'en Europe, vers l'an 1000, les chrétiens étaient inquiets, car selon la Bible, les temps du jugement dernier arrivaient, alors qu'une grosse explosion dans le ciel, ça n'a pas dû spécialement les rassurer, j'imagine.
Alors non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les archives ont été assez éloquentes, tant en Europe qu'ailleurs. Par exemple, en date du 21 octobre 992, deux chroniques saxonnes signalent que cette nuit-là, tout le ciel s'éteint en rouge trois fois. Deux mois plus tard, le jour de la Saint-Étienne, qui tombe donc le lendemain de Noël, le 26 décembre, ce qui ressemble à une description d'éruption solaire est signalé non seulement dans des textes allemands, mais aussi dans deux annales irlandaises. Un miracle inouï. Soudain, aux alentours du premier chant du coq, venant du nord, une telle lumière brilla que beaucoup crurent que le soleil s'était levé. Cela continua pendant une heure. Après quoi, le ciel légèrement rougi retourna à sa couleur normale. Un manuscrit irlandais, moins loquace, dit simplement que le ciel était rouge sang. Enfin, chez les Coréens, on trouve dans la même période la mention « Pendant une nuit, la porte du ciel s'ouvrit ». Bon, certes, c'est un peu poétique et mystérieux, mais on sait quand même que cette formule était parfois utilisée par les Asiatiques pour parler d'une aurore boréale. Oui, oui, une aurore boréale en Corée, oui. Et donc, grâce à tout cela, on a pu en déduire qu'effectivement, une éruption solaire importante s'était déroulée cette année-là, estimée à une magnitude de X2.
Et alors, il y en a eu d'autres depuis ?
Alors oui, en 1859, on a eu la deuxième plus puissante éruption solaire estimée, qui était de magnitude X10. En petite note, une éruption de magnitude X3 est deux fois plus puissante qu'une X2. Donc X10 par rapport à X2, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même plus puissant. Donc là, voilà, pour parler de puissance, là les aurores boréales ne sont pas descendues jusqu'en Corée, mais jusqu'aux Caraïbes, pour vous donner une idée. On estime ainsi que, lors de l'événement, 5% de l'ozone terrestre fut vaporisée. Le flux solaire a, par induction, créé des courants électriques dans les fils du télégraphe, provoquant des surtensions parfois assez puissantes pour électrocuter les télégraphistes envoyant des messages, voire même pour incendier les stations elles-mêmes. Et en 2012, le même genre de choses nous a loupé de peu, à 2 semaines près. Alors même si ça peut paraître très rare, assez lointain, il faut noter que ce genre d'événement est très dangereux avec la technologie massive sur laquelle notre société est basée. Une telle tempête, aujourd'hui, déjà grillerait tous les satellites en orbite. Désolé, il faudra apprendre à se resservir d'un plan parce que le tout récent Galileo et le GPS seront tous les deux en PLS. Ensuite, bye bye les lignes à haute tension et tout ce qui utilise plus ou moins de l'électricité, donc les circuits, l'informatique. En gros, on retourne en 1859, à l'époque du télégraphe, en quelques minutes avec plus de 2000 milliards de dollars de dégâts rien que pour les US. Et encore moins sympathique, on estime grosso modo qu'un événement comme ça a 12% de chances de se produire dans la décennie qui vient.
Mais tout ça est extrêmement rassurant pour l'informaticien que je suis, Léo.
Ah, t'auras du boulot après, te plains pas.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais on a toujours du boulot, pas comme ces matheux qui essayent désespérément d'avoir des places de maître de conf.